VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées dans l'explosion de véhicules piégés jeudi soir à Mogadiscio, suivi d'affrontements à l'arme automatique entre un commando d'islamistes radicaux Shebab et les forces de sécurité qui ont continué ce vendredi dans la capitale somalienne. Dans un communiqué publié ce matin, les Shebab affirmaient avoir repoussé plusieurs assauts des forces de l'ordre qui tentent de les neutraliser. La zone est bouclée par les autorités et on y entend encore des coups de feu. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Il y a eu une énorme explosion de voitures piégées dans la rue Maka al-Mukarama, a déclaré le policier Mohamed Farah. Elle a détruit beaucoup de magasins et de véhicules. Des témoins ont décrit l'explosion qui a touché une des rues les plus actives de la capitale somalienne. Il y a eu une deuxième explosion dans la même zone quelques minutes plus tard. Les islamistes Shebab ont revendiqué l'attentat, disant que les auteurs ont tenté de tuer des hauts responsables qui résident dans le grand hôtel Maka al-Mukarama. Il y a eu un attentat suicide suivi de tirs dans lesquels les combattants Mujahideen ont visé les commandants et les responsables du gouvernement somalien qui habitent l'hôtel, selon un communiqué de Shebab. Les Shebab, qui ont été chassés de Mogadiscio en 2011, contrôlent encore de vastes territoires dans les campagnes.
République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis les forces de sécurité en garde ce vendredi contre tout acte d'indiscipline. Il les a exhortés à la patience quant au paiement de leurs soldes. Des policiers ont récemment tiré en l'air pour réclamer leurs soldes impayés de décembre et janvier, selon des témoignages recueillis à Beni et Uvira, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dans les UPI, et aussi à Tshikapa Mbujima et région du Kasai, dans le centre de la RDC. Le Kivu et le Kasai sont le théâtre de violences meurtrières en raison de la présence sur place de miliciens et autres groupes armés. Le communiqué présidentiel informe les forces de sécurité concernées que la somme relative à la solde de décembre 2018 et janvier 2019 est déjà disponible dans les banques et qu'ils vont être payés dès la semaine prochaine. Le chef de l'État souligne également qu'il ne tolérera aucun acte d'indiscipline. Le parquet militaire est instruit pour interpeller et traduire en justice les coupables ainsi que tout individu, militaire ou non, qui volontairement perturberait la paix des militaires ou des policiers. Peut-on encore lire sur le document? À Afrique centrale toujours, le Congo-Brazzaville a noué un partenariat avec l'université Harvard, ici à Washington, dans le domaine de la recherche. Une collaboration établie au moment où les universités du Congo-Brazzaville connaissent des problèmes d'arriérés de salaire, de grève et de retard au niveau de la rentrée académique. Eddie Sango a reçu dans les studios de VOA Afrique le ministre de l'enseignement supérieur du Congo-Brazzaville, Bruno Itoa.
Nous avons une conjoncture aujourd'hui économique et financière qui est connue, qui est difficile. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Et comme tous les pays producteurs de pétrole, nous avons subi de plein fouet la réduction drastique des prix du pétrole. Ça a donc eu un impact sur notre capacité à honorer nos engagements sociaux, c'est-à-dire notamment les salaires et entre autres les salaires de l'université. Donc en effet, il y a quelques retards de paiement. Je voulais rappeler quand même que de décembre, autant que je me souvienne, 1998, jusqu'à ce que nous ayons cette crise en 2015, il n'y avait jamais eu de retard de salaire pour personne au Congo. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça excuse tout, non, mais c'est pour replacer les choses dans leur contexte. Et en réalité, quand on dit 6 mois de salaire, on donne le sentiment que ça fait 6 mois qu'on n'a pas payé. C'est le cumul des arriérés, c'est-à-dire qu'il y a un mois où on n'a pas payé, le mois d'après on a payé, puis quelques temps après il y a encore un mois qu'on n'a pas payé. Ces 6 mois, les salaires ont été réduits aujourd'hui à 4 mois de salaire. Mais depuis le mois de juin 2018, tous les mois, l'université est payée. Et le plus lourd, arriéré, c'était sur l'année académique précédente, ça a été soldé totalement. Donc je crois que tout ça a créé des conditions pour que la reprise ait lieu. Et actuellement, nous travaillons pour résorber ces arriérés qui restent de 4 mois.
Justement, la rentrée académique a eu lieu, mais 3 mois après, qu'est-ce que vous comptez faire pour que ces retards ne puissent pas aboutir à, par exemple, à une année blanche ou pour que vous puissiez absorber ces retards?
J'ai l'assurance de la part de tous les acteurs, le rectorat, les enseignants eux-mêmes, que tout se passera bien et que nous aurons une année académique normale.
Est-ce que vous avez une politique de pouvoir mener à l'excellence cette université? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là?
Une université, elle a plusieurs missions. Elle a la mission de formation d'enseignement, celle qu'on connaît en général. Elle a la mission de recherche et d'innovation, on le sait moins. Et elle a la mission de service à la communauté. Ces trois missions peuvent générer des ressources autres que celles des étudiants. Quand on fait de la formation d'enseignement pointu, qui s'adresse à des travailleurs, à des cadres, à des entreprises, à des partenaires qui ont des ressources, oui, on peut leur demander de payer le juste prix de l'enseignement. On ne peut pas imaginer qu'une année académique pour un étudiant coûte 12 500 francs CFA. C'est clair, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et donc, à eux, on peut leur demander. La recherche et l'innovation peuvent produire des brevets, peuvent produire des concepts, peuvent produire des résultats que l'on peut transformer en ressources, qu'on peut monétiser. Et les services à la communauté, la même chose. Donc, nous travaillons à ça aujourd'hui pour que le modèle de l'université congolaise, comme le modèle de certaines universités africaines qui sont en train d'évoluer, lui permettent de disposer de ressources suffisantes pour se moderniser et pour garantir l'accès à l'excellence. Ça ne veut pas dire que l'État va s'arrêter de financer, non, mais ça viendra compléter ce que fait l'État et ça viendra amplifier ce que fait l'État. Mais vous savez, les mesures dont je parle, elles ne sont pas à long terme. J'espère qu'elles donneront des effets rapidement. Quand on parle de services à la communauté, on parle des études, on parle de calculs, on parle de sondages, on parle de modèles, on parle de choses simples.
Bruno Itoua, ministre de l'Enseignement supérieur du Congo, Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, reprise de la grève des enseignants en Guinée-Bissau, 2 semaines après sa suspension. Les enseignants ont relancé leur arrêt de travail jeudi en dénonçant le non-respect par le gouvernement d'accords portant sur les salaires et l'amélioration de leurs conditions de vie. Les précisions de John Lyndon.
Selon la coordination syndicale, les enseignants reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté ses promesses de paiement de 3 mois d'arriéré des salaires, d'amélioration de leurs conditions de vie, des publications au journal officiel d'un nouveau plan de carrière et la mise en œuvre d'une nouvelle grille salariale. Ils nous ont menti sur toutes les promesses faites. Nous avons tout simplement cessé de travailler, a déclaré le chef de la coordination des grévistes, Begoma Edouarté Sana. Il a affirmé que le mouvement se poursuivra tant que le gouvernement n'aura pas trouvé de solution. Depuis septembre, les enseignants de Guinée-Bissau ont fait des grèves à répétition pour réclamer le respect d'accords conclus après plusieurs années de revendications. Le mouvement des enseignants, qui avait suspendu leur grève le 15 février, a repris alors que se poursuivait jeudi la campagne pour les élections législatives du 10 mars, initialement prévue en novembre.
Élections au Nigeria, les États-Unis se sont félicités jeudi des élections réussies dans le pays, largement remportées par le président sortant Muhammadu Buhari. Nous félicitons tous les Nigérians qui ont participé pacifiquement aux élections et condamnons ceux dont les actes de violence ont nuit aux Nigérians et au processus électoral, a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans un communiqué. Après 3 jours de compilation des résultats, la Commission électorale indépendante a proclamé la victoire du président Buhari avec une avance de près de 4 millions de voix sur son principal rival, le leader du Parti démocratique populaire d'opposition, Atiku Abubakar, soit 56% des suffrages contre 41% aux perdants. L'opposant a dénoncé ce qu'il a appelé une parodie d'élection et il a annoncé son intention de contester les résultats en justice. Et vous terminez en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu sur des charbons ardents. Le procureur général l'a informé jeudi en pleine campagne électorale de son intention de l'inculper. Il veut le faire juger pour corruption, fraude et abus de confiance présumés. Le point avec Raissa Girondin.
Le magistrat Avishai Mandelblit a indiqué que sa décision n'était pas finale et qu'il offrait au Premier ministre la possibilité de s'expliquer devant lui avant de prendre la décision définitive. Il a l'intention d'inculper M. Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. Le Premier ministre est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable de la part du site d'information Walla en contrepartie de facilités gouvernementales qui pourraient avoir apporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, principal groupe de télécommunications israélien. Si une inculpation se concrétisait, elle ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Netanyahou ne serait pas non plus tenu légalement de démissionner s'il était inculpé après avoir été reconduit à son poste. 40 jours avant les législatives anticipées du 9 avril, c'est une menace sur le long règne de l'homme appelé Bibi qui, à 69 ans et après bientôt 13 ans de pouvoir, brigue un 5e mandat. Le Premier ministre a dénoncé une chasse aux sorcières et un plan de ses adversaires.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.